Bon, je crois
On
qu'on peut y aller.
commence?
Hein.
Bonjour à tous, merci d'être présents à cette table ronde. Je vous propose que notre premier tour de parole consiste à nous présenter les uns les autres et à faire naturellement la part belle à notre invité d'honneur, Pierre-Henri Pevel.
C'est moi. Je m'appelle Pierre Pevel, je suis romancier, l'auteur en particulier des Lames du Cardinal, une trilogie parue chez Bragelonne. Le premier tome est paru chez Folio SF tout dernièrement. Et ce qui me vaut d'être ici, c'est, je pense, deux choses. D'une part, c'est que j'ai commencé ma carrière en tant qu'auteur de jeux de rôle. Et la seconde, c'est que les Lames du Cardinal, dont je vous parlais à l'instant, est en cours d'adaptation pour donner un jeu de rôle qui paraîtra aux éditions Sans Détour d'ici quelques mois, enfin cette année, au printemps. Ça ne va pas tarder du tout. Voilà.
Benoît Robin de l'association Oshikaze 2250. Donc nous écrivons un univers de science-fiction d'une manière qui transcende, je dirais, les différents médias que sont le jeu de rôle, le roman, la nouvelle, le jeu vidéo. J'en passe beaucoup. Nous écrivons donc dans tous ces médias en nous concentrant sur l'univers et cette écriture est venue initialement du jeu de rôle, puisque cet univers était initialement un univers de jeu de rôle.
Quant à moi, mon nom est Thomas Laboré, je suis auteur de jeux de rôle ou co-auteur de jeux de rôle indépendants. J'ai cofondé le collectif Imaginer.net de réflexion sur l'imaginaire collaboratif. Et après 2 mandats passés à la présidence de la Fédération française de jeux de rôle, j'en suis aujourd'hui président honoraire. Donc plusieurs sujets qui se croisent dans nos débats. Naturellement, le jeu de rôle a toujours puisé son inspiration dans les œuvres préexistantes. Une certaine génération d'auteurs est venue à l'écriture en passant par un passé rôliste. Comment se font ces passages de l'un à l'autre et pourquoi? Qu'est-ce qui les motive? Pierre, tu peux nous résumer ton parcours à cet égard?
Oui, donc j'ai commencé à travailler dans le jeu de rôle en tant qu'auteur indépendant, freelance, mercenaire, selon les termes choisis.
Chasseur de primes.
Oui, voilà. J'ai travaillé dans le jeu de rôle durant un peu moins d'une dizaine d'années.
Si les titres faisaient de la pub.
En faisant mon trou petit à petit, mais essentiellement, j'ai fini par travailler très régulièrement avec les éditions Oriflamme et avec Cirrus Prod, qui est devenu Asmodée maintenant. J'ai en particulier développé tout l'univers d'un jeu de rôle médiéval fantastique urbain qui s'appelait Nightcrawler chez Cirrus.
C'est marrant.
C'est moi qui ai créé les 7 cités, Samarrande et les autres. Justement, à l'époque, donc on est là, je vous parle du milieu des années 90, Nemos avait commencé à publier des romans, et Siro s'est dit que c'était une bonne idée qu'on allait faire pareil, des romans inspirés de nos univers de jeux de rôle. Comme j'avais développé l'univers de Nightcrawler, assez naturellement, on m'a proposé d'écrire dans un premier temps une nouvelle, puis des romans situés dans cet univers, ce que j'ai accepté de faire. J'ai écrit 5 romans, 4 seulement ont paru. Je me suis rendu compte que j'aimais ça. Petit à petit, j'ai arrêté de travailler dans le jeu de rôle pour me consacrer essentiellement à ces romans. Et puis, ensuite, bah, la vie a pris le dessus, à savoir que le succès n'étant pas au rendez-vous, essentiellement, la raison principale c'est celle-là. Le succès n'étant pas au rendez-vous, Cirrus a décidé d'arrêter la production de ses jeux de rôle, de ses romans inspirés de jeux de rôle. Moi, j'avais pris le virus, j'avais plus tellement envie de revenir au jeu de rôle en ayant plus ou moins le sentiment de me cogner au plafond. C'est-à-dire que je me disais que je ne pouvais pas faire beaucoup mieux et aller beaucoup plus loin que ce que j'avais fait déjà dans le jeu de rôle. Donc j'ai décidé de continuer à écrire. Et là, j'ai fait la chose la plus naturelle et la plus triviale du monde. J'ai écrit un bouquin, j'en ai fait 3 photocopies que j'ai mis dans 3 enveloppes différentes que j'ai envoyées à 3 éditeurs. Et en attendant des réponses éventuelles. Et deux m'ont répondu. Non, 3 m'ont répondu en fait, ouais. Dont un pour me dire non. Et puis les 2 autres voulaient du bouquin et c'est Fleuve Noir qui a animé le premier. C'est comme ça que mon premier bouquin a été acheté par le Fleuve Noir. Ils ne l'ont pas fait pour autant, mais j'avais mis un pied dans la place et c'est à eux que j'ai proposé Les Ombres d'Illstadt quelques mois plus tard, qu'ils ont pris, et ça a été là vraiment le vrai début de ma carrière de romancier. Voilà comment ça s'est passé. Comme souvent dans ces métiers-là, c'est une série de rencontres, d'opportunités, d'occasions saisies et exploitées avec le mélange de chance et de travail ordinaire. Ouais, c'est pas vraiment de secret. Ceci dit, j'aime bien ce parcours parce que c'est quand même un bon exemple. Ça veut dire que si on vient vous dire qu'on ne peut pas éditer si on ne connaît pas quelqu'un, on vous dit juste un mensonge. C'est parce que c'est pas vrai. Voilà. La preuve en est moi.
J'ai une question peut-être iconoclaste, mais tu vis ta plume ou tu as un day job à côté très embêtant de programmateur informatique, de contrôleur de gestion ou de manutentionnaire, comme nous tous?
Alors, je suis chef du service contentieux de la Sogecop. Non, j'ai de la chance, je fais que ça. Je vis de ma plume. J'ai toujours voulu vivre de ma plume. J'ai tout fait pour vivre de ma plume. Et c'est maintenant le cas. J'en ai vécu d'abord petitement, voire misérablement. C'est plus le cas maintenant. Ma vie va mieux, merci. Je vis de ma plume. C'est un privilège. Je ne dis pas que c'est une chance, parce que ce n'est pas arrivé par hasard. Je n'ai pas gagné ça à la loterie non plus. Mais oui, on n'est pas beaucoup. Et maintenant, je vis de ma plume. C'est un choix. C'est un choix qui a exigé d'autres sacrifices en termes de vie de famille ou de petites voitures de sport décapotables rouges. En l'occurrence, je n'ai ni l'un ni l'autre. Mais je vis de ma plume et j'en suis fort heureux.
Donc si on vous dit qu'on ne peut pas vivre de sa plume dans la littérature de genre, on vous raconte un autre mensonge.
Qui statistiquement est pas loin d'être vrai quand même, parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est clair que si vous voulez devenir riche, il faut pas faire ça comme métier, quoi. Ça, c'est l'évidence. Oui, on est quelques. Non, on n'est quand même pas beaucoup. À vivre vraiment de la plume, à faire vraiment que le métier de romancier et à vivre de ses droits d'auteur, on n'est vraiment pas beaucoup en France et tout genre confondu, quoi. Vraiment. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il doit y en avoir une dizaine en France, pas beaucoup plus, dans la littérature blanche. Une fois qu'on est sorti de Musso, Lévy, Amélie Nothomb et quelques autres, il n'y en a plus. Quoi. Après, vous trouverez des gens qui vivent toujours de leur plume, mais pas seulement en tant que romanciers. C'est-à-dire qu'ils sont aussi éditorialistes, critiques, journalistes. Donc, c'est toujours des gens qui écrivent, mais qui ne vivent pas que de la plume de romancier. Et puis, il y a l'immense majorité des auteurs, surtout dans la littérature de genre, fantasy ou même polar, qui donc ont un autre métier. En général, les romanciers sont souvent professeurs, bibliothécaires.
Un truc qui reste dans la profession du livre.
Qui sont quand même des métiers liés à l'écriture également.
C'est ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de rapports entre professeur de lettres et l'écriture, en fait. Il faut être franc. C'est pas du tout le sujet du débat. Donc je ne vais pas faire de parenthèse, mais les facs de lettres, ça sert à faire des profs de français. Ça ne sert pas à faire des romanciers. C'est comme ça. Moi, je suis de ceux qui le regrettent. En fait, il faut imaginer une faculté de lettres en ce moment. Il faut imaginer les Beaux-Arts où il n'y aurait pas d'atelier. Non, mais vraiment, c'est ça. Vous direz, l'école de Beaux-Arts, il n'y aurait pas de pinceau, il n'y aurait pas de toile, il n'y aurait pas d'atelier pour faire de
l'art théorique, monsieur.
Voilà.
Au-delà de l'art abstrait.
On y apprendrait l'histoire de l'art, la critique de l'art. Les facs de lettres, c'est ça. Puisqu'il faut s'en réjouir ou s'en plaindre, moi, c'est pas le débat. Quoi qu'il en soit, si j'ai arrêté mes études de lettres, c'est parce que j'ai vite compris que ça n'allait pas m'apprendre ce que j'avais envie d'apprendre, à savoir à devenir romancier. La chose est possible. L'écriture est enseignée dans d'autres pays, en particulier les pays anglo-saxons. Mais pas en France, c'est pas la culture, c'est comme ça. Voilà. Fin de la parenthèse.
Bon, avant de passer la parole à Benoît et de revenir sur son parcours à lui, une dernière question à Pierre dans ce fil-là. En termes de thématique, est-ce que les choses que tu traites aujourd'hui sont d'une manière ou d'une autre la prolongation, le prolongement de ce que tu traitais en jeu de rôle? Est-ce qu'au contraire, il y a des sujets que tu n'arrivais pas à traiter en jeu de rôle ou qu'on ne te proposait pas de traiter? Enfin, comment ça s'articule? Et est-ce qu'à ton avis, certains thèmes se prêtent plus à l'un ou l'autre des deux médias, en tout cas dans ta sensibilité personnelle?
En fait, je pense qu'il n'y a pas grand rapport entre le jeu de rôle et l'écriture, pour être tout à fait franc.
Voilà.
Je pense que le meilleur rapport qui puisse... Enfin, là où ces deux modes artistiques ou d'expression ou de création sont les plus proches, c'est lorsque un jeu de rôle inspire un roman ou lorsqu'un roman inspire un jeu de rôle. Mais mis à part ça, pour avoir fait les deux, et assez sérieusement, moi, je trouve qu'il n'y a pas de rapport. Et c'est même assez dangereux de penser qu'il y en a. C'est-à-dire qu'un bon metteur, un bon maître de jeu, voire même un bon scénariste de jeu de rôle, ne va pas forcément donner à un bon romancier. Ce n'est pas du tout le même exercice. Une histoire qui fait un bon scénario de jeu de rôle n'est pas forcément une histoire qui fait un bon roman. C'est même relativement casse-gueule. Moi, j'ai lu quelques romans inspirés de jeux de rôle. J'ai vu beaucoup de parties racontées qui étaient d'un ennui, mais crasse, quoi.
C'est ça, c'est des comptes rendus de parties.
Voilà, et on sent bien que le garçon est très content d'expliquer comment son paladin 15e niveau ou son assassin elfe de 12 est vachement fort parce qu'il s'est lancé deux dagues en même temps et puis en bouquin, ça donne rien, quoi. C'est des trucs qui sont hyper excitants en jeu de rôle, au cours d'une partie de jeu de rôle, mais qui en bouquin sont d'un ennui flagrant. Il y a une différence fondamentale entre un bon scénar et un bon roman, c'est qu'un bon scénar de jeu de rôle, tout ce qui arrive d'intéressant doit arriver au personnage. Ce qui se passe en coulisses, les joueurs, ils s'en foutent et ils ont raison. Hein. Dans la mesure, si ça n'influe absolument pas sur le fil de la partie et sur ce que eux vivent, peu importe. Dans un roman, on peut avoir plusieurs points de vue, on peut raconter ce que font vraiment les méchants ou ce que font d'autres personnages que les personnages principaux. Ça peut avoir un intérêt, ça peut même nourrir le bouquin qui peut être un fil de récit croisé, etc. Dans une partie de jeu de rôle, tout ce qui arrive d'intéressant doit arriver aux joueurs. Parce que si à la fin, et ça m'est, je l'ai déjà vécu, à la fin le maître de jeu t'explique que en fait, ouais, mais pendant que toi tu faisais ça, il y avait un tel qui faisait ça et qu'en fait ça a sauvé le monde. Il dit, ah ouais, d'accord, mais pourquoi j'étais pas là et pourquoi j'étais pas l'autre qui a sauvé le monde, surtout, quoi. Moi, je suis venu là pour faire les trucs intéressants. Donc, rien que comme ça, on se rend compte que les processus narratifs, les constructions d'histoire ne sont pas les mêmes du tout, du tout. Il est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont passés du jeu de rôle en tant que professionnels à la littérature, mais déjà, c'était des auteurs de jeux de rôle, c'était pas des mecs qui jouaient, qui étaient maîtres de jeu chez eux avec leurs copains ou en MJC. J'ai aucun mépris pour ça, je l'ai fait, hein. Mais c'est pas la même chose que d'être déjà professionnel du jeu de rôle et donc d'écrire des scénarios pour quelqu'un et de maîtriser une partie pour ses copains. Donc déjà c'était eux, et en plus tous n'ont pas réussi. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que Fabrice Collin, il vient du jeu de rôle. C'est vrai que Ange, Gérard et Anne Guéraud, ils viennent du jeu de rôle, et que moi aussi, et on est quelques-uns. Maintenant, on était plus que ça à bosser dans le jeu de rôle, et on n'est pas tous devenus romanciers, ou alors avec des succès très 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 divers, quoi. Tout simplement parce que, oui, un auteur de jeu de rôle ou un romancier ont l'un et l'autre envie de raconter des histoires. Ils utilisent deux médias différents, mais ils ont tous les deux envie de raconter une histoire. Mais il ne faut jamais oublier que le romancier, il fournit au lecteur un produit fini. L'auteur de jeu de rôle, il produit un moyen, il produit le scénario qui permet de faire le film. À la limite, il écrit le texte qui va permettre de faire la pièce de théâtre. Mais il ne produit pas la pièce de théâtre, il ne produit pas le film. Un bon scénar, c'est un scénar qui permet, c'est un matériau qui va être repris par le maître de jeu et par les joueurs et qui va permettre la création de quelque chose qu'on appelle la partie, qui est ce moment de jeu, d'évasion qui est fabuleux, mais c'est qu'un moyen, un scénario de jeu de rôle, voire même un jeu de rôle ou une extension. Le roman, lui, est un produit fini qui arrive clé en main. Alors évidemment, ensuite, il y a la part du lecteur qui s'approprie les personnages, l'univers, qui recrée lui-même. Oui. Mais c'est quand même un produit fini. Il est écrit tel qu'il est écrit et il n'y a pas moyen d'en sortir. Le jeu de rôle, lui, c'est un outil. Le scénario de jeu de rôle est un outil. C'est pas une œuvre, c'est un outil. Ça demande un talent particulier. C'est pas moins estimable d'écrire une très très bonne campagne de jeu de rôle que d'écrire un très très bon bouquin. Moi, je suis d'une vieille génération de l'Appel de Cthulhu, les masques de Nyarlathotep, je m'en souviens encore, quoi, parce que c'est une campagne fabuleuse et qui, justement, donnait tout le matériau pour devenir une bonne partie. Il y a parfois, et d'ailleurs, je vous disais qu'il y a parfois des bons maîtres de jeu ou des bons auteurs qui n'ont pas donné de bons romanciers, mais on peut presque dire que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très, très doués qui faisaient des scénarios qui étaient, en fait, déjà des romans. Où il y a peu de parts de création qui étaient permis ni au maître de jeu, ni aux joueurs, aux PJ qui étaient pris dans la qui sont pris dans une sorte de mécanique parfaitement huilée du scénar qui se déroule très bien, où ils font ce qu'on attend d'eux parce qu'ils sont pas idiots et donc ils font les trucs. En général, un joueur fait les choses logiques. C'est rare que tout d'un coup, ils décident de faire un truc aberrant. Donc, on peut avoir des scénars qui étaient en fait des très très bons bouts. Des livres dont vous êtes le héros, des romans à jouer, mais qui n'étaient pas vraiment des bons scénarios. Moi, je crois vraiment que le bon scénar de jeu de rôle, le bon jeu de rôle et la bonne extension, c'est celle qui est un tremplin, qui donne, c'est un arsenal, ça donne des munitions au maître de jeu et aux joueurs pour produire quelque chose. L'œuvre, c'est la partie. Et c'est d'ailleurs très, très, très excitant de penser, quand on est auteur de jeu de rôle, que ce qu'on écrit va permettre la production de autant d'œuvres qu'il va y avoir de parties, voire même parfois même jouées par les mêmes. C'est-à-dire qu'un même maître de jeu va pouvoir faire jouer plusieurs fois la même partie et voir des choses très différentes se faire. Donc c'est vraiment pas la même chose. Je tiens beaucoup à cette idée que le scénar de jeu de rôle, c'est un outil, c'est un matériau, c'est un moyen. C'est l'atlas, c'est le guide de voyage qui va vous permettre de faire le chouette voyage. Le romancier, lui, il vous raconte le voyage qui a déjà été fait en quelque sorte. C'est un compte rendu. C'est pas du tout la même chose.
J'ai expérience dans Oshikaze, dans le développement que l'on fait, où l'on fait à la fois de la nouvelle et du jeu de rôle. Et effectivement, ce problème s'est posé. D'une part, on écrit, on raconte ce voyage qui est déjà fait, cette histoire du futur jusqu'à l'année 2250, et d'autre part, on fait jouer les joueurs qui viennent découvrir cet univers, on les fait jouer dans cet univers, et on a résolu le problème de cette manière. Jusqu'en 2250, on raconte l'histoire. À partir de 2250, le jeu de rôle, mais également le jeu vidéo et le jeu de plateau, commence, et là, ce sont les joueurs qui vont créer l'histoire, qui ne vont pas avoir à s'inscrire dans une histoire déjà écrite, mais qui vont réellement la créer. Et là, j'abonderai dans le sens de Pierre par rapport à cet aspect boîte à outils, à cet aspect outil de création. En fait, il s'agit, ce que l'on fait comme scénario, ce sont des bases pour de l'improvisation, et ce sont les parties qui vont écrire l'histoire. On a donc vu cette grande différence, et la manière dont on l'a résolu, c'était justement de placer une date pivot. C'est dans ce sens que va notre expérience, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette différence, mais on peut la contourner, on peut la résoudre avec des petits trucs dans la manière dont on organise un univers commun entre des jeux, donc interactifs et qui impliquent une création de la part des joueurs, et des nouvelles ou des romans, donc des narrations préécrites.
Et est-ce que vous capitalisez les événements qui se passent lors des parties de jeu pour continuer à écrire l'histoire du futur? Est-ce que vous faites aussi ce compte-rendu du voyage, mais qui a été vraiment effectué par des vrais joueurs?
Pour l'instant, on ne le fait pas. Je sais que dans d'autres, dans certains jeux, ça se fait, par exemple, les gens des 5 anneaux, ils ont un jeu de plateau et un jeu de rôle.
Un
jeu de cartes et un jeu de rôle, oui. Dans les conventions internationales qui se font tous les ans, les événements, les scénarios qui sont joués, la manière, les histoires qui sont écrites lors de ces conventions sont réinjectées dans l'histoire, et l'histoire avance d'un cran, l'histoire officielle du jeu avance d'un cran. Je sais qu'il y a d'autres jeux qui font ça, mais je n'ai plus ça.
Je crois qu'ils avaient fait la même chose avec Deadlands à une époque. Et la légende urbaine, mais je ne l'ai pas vérifié de la bouche même des auteurs, veut que la storyline de Traveller, alors là je m'adresse peut-être à un public trop jeune pour suivre un jeu aussi ancien, mais que la storyline avançait sur la base de la campagne de wargame stratégique en fait, qui était menée par les auteurs et qui faisait évoluer la géopolitique de l'univers connu, de l'oïkoumène humain. Petit récapitulatif de ce qui s'est dit avec mon regard de théoricien du jeu de rôle avant de refaire un tour sur une autre thématique. C'est très intéressant le témoignage de Pierre sur un certain nombre de sujets, et notamment le fait que c'est pas le même exercice, la littérature et le jeu de rôle. Là où, là, avec les écueils qu'il a parfaitement décrit, donc je ne vais pas revenir dessus parce qu'il l'a dit mieux que moi. Là où il y a peut-être un travail littéraire dans le jeu de rôle, dans l'écriture de jeu de rôle, c'est que, et notamment dans le scénar de jeu de rôle, et je pense que c'est pas un hasard si Pierre axait sa dichotomie sur scénar versus littérature nouvelle ou roman, même si après il élargissait au jeu ou aux extensions elles-mêmes, c'est que les jeux et leurs extensions sont avant tout des descriptifs statiques d'un cadre dans lequel on peut évoluer, alors que scénario, lui, par définition, il est dynamique, il est ce que vont jouer les joueurs, ce au travers de quoi ils vont rencontrer l'univers du jeu et son système. Et donc ils ont une nature intrinsèquement plus narrative. Ce qu'il y a, c'est que le scénar, il va avoir un double usage. Il faut qu'il soit lu par le futur meneur de jeu d'une manière qui, à la fois, est plaisante pour lui, que l'expérience de le lire ne soit pas fastidieuse et un exercice de cross-référencement et de préparation intellectuelle très, 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 très rigoureuse et très casse-pied. Il faut aussi que ce soit plaisant à lire. Et ensuite, il faut malgré tout que, en cours d'exécution de la partie, il puisse se référer à ce document de manière lisible, simple, et y retrouver l'information de manière structurée. Donc ça doit être à la fois assez construit, mais en même temps assez littéraire. Il doit y avoir des moments où il se dit, mais finalement, qui est le méchant? Et ah, il y a un retournement de situation, etc. Pourquoi? Pour une raison bête aussi, qui est que plus, lors de son expérience de lecture, il aura eu une expérience de spectateur, de subir l'histoire, plus il sentira les moments d'inflexion émotionnelle du scénario, et ça pourra l'aider à le mener d'une manière un peu plus appropriée vis-à-vis de ses joueurs. Donc à la fois ça va être présenté comme quelque chose où il y a un peu de suspense et un peu d'art narratif, mais en même temps ça doit être un dossier dans lequel on se retrouve, d'où les classiques questions sur est-ce que les statistiques des PNJ sont à la fin pour pas interrompre la narration, est-ce qu'elles sont au milieu pour qu'on les trouve à l'endroit où le personnage intervient, est-ce qu'on fait des plans, est-ce qu'il y a des parties à lire aux joueurs, etc. Bon, là c'est pas le débat, mais c'est intéressant de voir qu'il y a parfois une logique quand même de dire, vis-à-vis au moins de mon premier lecteur qui est le meneur, je dois rédiger de manière un petit peu littéraire. Il y a aussi plein d'éléments intéressants dans la réflexion de Pierre sur le fait que un jeu de rôle, par définition, est un produit par construction incomplet. C'est-à-dire que les plus belles descriptions d'univers, les suppléments les plus complets qui vont vous décrire une région, l'historique d'un peuple, etc., ne couvriront jamais tous les détails dont vous aurez besoin en jeu de rôle. Parce que dans un roman, même si on est un complétiste comme Tolkien qui nous fait des pages et des pages d'annexes avec les généalogies de personnages qu'on verra jamais dans l'histoire, il y aura toujours quelque chose qu'on ne décrira pas parce que ça ne sert pas l'histoire. Alors qu'en jeu de rôle, on ne sait pas ce que les joueurs vont dire. S'ils vont chercher la généalogie d'un tel, s'ils vont toquer à la porte d'une maison qui est là, mais dont on n'avait pas prévu qu'elle servait à quelque chose, c'est pas un jeu vidéo. Le meneur ne peut pas dire « ce pixel est inactif ». Il doit dire ce qui se passe quand on toque à la porte. Et s'il envoie systématiquement bouler ses joueurs à coup de « les fourrés sont trop épais, il n'y a personne, c'est fermé, ta gueule, c'est magique », il y a un moment où il se coupe un peu de son public. Donc c'est important de pouvoir dire « oui, mais ok, je vais enrichir l'univers, j'avais pas prévu, mais ok, ce PNJ lui répond et devient important. Cette situation-là, je l'avais pas prévu dans le système de jeu, mais il faut bien que je la résolve. Et dans le scénar, bah, j'ai pas tout prévu et il y a des choses que je devrais rajouter. » Et cette notion que, effectivement, un jeu de rôle est un produit par définition incomplet et fondamental dans la vision d'Olivier Caïra, qui est un sociologue de la fiction, et un des premiers sociologues à avoir travaillé sur le jeu de rôle en tant que vecteur de la fiction. Et il dit ça, le jeu de rôle, c'est fondamentalement une fiction incomplète. Et il dit aussi, on a tort d'appeler ça un jeu de rôle, puisque un jeu, c'est un plateau des règles, des conditions de victoire qui légitiment que la compétition entre les participants s'est déroulée de manière équitable, puisque c'est une forme de loisir qui n'est pas compétitive, le jeu de rôle. Il peut y avoir compétition entre les joueurs, il n'y a pas de compétition, il peut y avoir une compétition entre les personnages, mais il n'y en aura pas entre les joueurs. C'est pas moi qui vais sauver la princesse ou pas, ou mourir, c'est mon personnage. Moi, je peux jouer un autre personnage dans un autre jeu qui fait autre chose. Et donc, il dit, finalement, c'est pas un jeu. Le jeu de rôle, c'est un jouet. C'est-à-dire, c'est un support transférentiel sur lequel on va faire des choses imaginaires, comme un Playmobil. Et c'est pas très loin de ce que tu disais en disant c'est une boîte à outils, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire un voyage. Alors que le roman, il nous raconte le voyage qui a été fait. Là, c'est un peu la même chose, c'est un jouet, le Playmobil, on va l'habiller, on va le positionner, on va le déplacer et il va jouer avec les autres. Mais en tant que tel, il est un bout de plastique dans une boîte. Il n'est qu'une potentialité. Et effectivement, on ne va pas citer leurs noms parce qu'ils ne sont pas là, mais il y a un certain nombre d'assez grands auteurs, finalement, de scénarios, où on sentait bien qu'ils aimaient bien faire des histoires, où effectivement, il n'y avait qu'une seule chose à faire, sauf à sortir du scénar, à sortir du jeu, et où c'était effectivement plus comme un livre dont vous êtes le héros, peut-être un peu arborescent, peut-être un peu à choix multiples, mais en tout cas, ça aboutissait bien à une certaine chose qu'il voulait. Et là, est-on encore dans le jeu de rôle ? On peut avoir un débat sans fin. En tout cas, il est clair qu'on est dans quelque chose qui est un peu trop complet pour que les joueurs aient une expérience de grande liberté. Et la dernière chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, le même jeu, le même scénar de ce fait, peuvent donner lieu à des œuvres, quand on les raconte après coup, quand on fait le compte-rendu de la partie, même si c'est de la littérature très faible, on aura des comptes-rendus de partie très différents. Et Olivier Caïra, à nouveau, avait fait cet effort-là, de faire jouer le même scénario à plusieurs groupes différents. Vous arrivez dans une ville qui se trouve, 2 minutes après, être assiégée par des pirates, qu'est-ce que vous faites ? Et il y a eu plusieurs issues différentes. Ceux qui arrivent tellement maladroitement à avertir la ville que les pirates vont l'attaquer, qu'ils sont suspectés d'être alliés des pirates et donc sont emprisonnés. Et le fait d'être emprisonné fait que les pirates ne les tuent pas parce qu'ils les prennent pour leur père. Ceux qui défendent héroïquement la ville et meurent pour sa défense, et à la fin, ils ont une statue qui est élevée à leur gloire. Ceux qui trahissent la ville pour s'allier avec les pirates et qui ensuite trahissent les pirates et finissent tous massacrés. À chaque fois, ils se sont comportés différemment. L'histoire est différente et dans tous les cas, elle est marrante. Je voudrais repasser la parole à Pierre parce que l'actualité, on l'a vu, là, je t'ai parlé de ton passé, mais justement, sortons du rétroviseur et parlons de ton actualité. Les Lames du Cardinal, donc tu l'as dit, vont être adaptées par Sans Détour. Un éditeur qui alors est issu au départ du monde de la distribution, mais qui a une longue tradition de la fiction littéraire adaptée en jeu de rôle, puisqu'ils portent essentiellement la très célèbre marque de l'Appel de Cthulhu, notamment en ayant sorti une édition française qui est un peu enrichie en termes de système par rapport à la dernière édition américaine. Comment ça s'est passé avec eux ? Quel contrôle éditorial tu as sur l'adaptation ? Qu'est-ce qui fait que pour eux c'est une bonne idée de l'adapter en jeu de rôle ? Qu'est-ce qui change entre le produit fini jeu de rôle et le produit fini littéraire ? Bref, parle-nous de ça.
Oui, là. Alors, pourquoi ? Bon, déjà, c'était pas la première fois que j'étais contacté par des auteurs pour adapter soit les Lames, voire même un autre de mes univers en jeu de rôle. Jusqu'à présent, j'avais toujours refusé parce que je connaissais pas ces gens. donc, je n'avais pas tellement envie de voir mon matériau confié à des inconnus qui en feraient je ne sais pas quoi. Donc, ça allait exiger que je sois très très attentif, que je suive ça, tous les projets de développement de très très près. Bref, ça allait me demander beaucoup de travail, un travail que je n'avais pas envie de fournir et que j'avais d'ailleurs pas le temps de fournir. Par contre, quand c'est Sans Détour qui m'a approché, là les choses se sont passées de manière très très différente, vu que Christian Grussi, qui est le directeur artistique de Sans Détour, est un vieux copain. Je le connais depuis longtemps, j'ai pleine confiance en lui, donc je savais que j'allais pouvoir voir les choses assez loin. Et qu'il suffirait que je m'entende avec lui sur les principes pour que je puisse avoir la certitude, a priori, que ces principes seraient appliqués, que je n'aurais pas à vérifier la cuisine interne, quoi. En gros, on pourrait se mettre d'accord sur la carte. Ensuite, la cuisine, c'est lui et Sandiki. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ce qu'on a décidé... alors, pourquoi eux ont voulu faire les Lames ? J'imagine que c'était un univers qui avait un potentiel.
Tu peux juste en décrire les grandes lignes pour ceux qui ne l'ont pas lu.
Les Lames du Cardinal, c'est l'époque des Trois Mousquetaires, c'est le contexte des Trois Mousquetaires, c'est le début du XVIIe siècle. Le contexte historique est rigoureux, Richelieu, la France, Paris et les relations politico-diplomatico-stratégico-militaires de l'époque de l'Europe sont véritables.
La guerre de 30 ans, tout ça.
C'est la guerre de 30 ans en particulier. Tout ce que j'ai rajouté, moi, c'est des dragons. Et dans ce contexte-là, j'imaginais que les dragons vivaient, existaient. Grâce à la race a décliné, elle a été essentiellement massacrée. Et grâce à la magie, certains dragons ont pris apparence humaine et vivent cachés parmi les hommes. Il y a des bons dragons, il y a des méchants, il y en a qui sont animés de très mauvaises intentions. Et pour lutter contre ceux qui sont animés de très mauvaises intentions, le cardinal de Richelieu a réuni directement sous ses ordres un groupe de 5 hommes et une femme. Ce sont les Lames du Cardinal qui luttent donc... contre les dragons hostiles à la France. Donc c'est un mélange de KPDP, d'espionnage, un peu de fantasy, beaucoup d'aventures, avec un hommage à Dumas évident. Donc ça c'est l'univers des Lames du Cardinal. ça a donné l'objet d'une trilogie, donc paru chez Bragelonne, et maintenant qui commence à apparaître chez en folio, en poche, à un vil prix. Je vous encourage à l'acheter. Hein. Très très bon rapport qualité-prix. Non, sans rire, le bouquin est splendide. Hein. Le folio a fait un boulot magnifique. Blague à part, j'imagine que c'est l'univers qui les a tentés. Ils ont vu qu'il y avait, matière à faire. Surtout, l'univers était décrit de manière assez vaste, donc il y avait vraiment... il y avait déjà tout un contexte qui était propice à l'aventure et donc a été exploité par un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il faut que le bouquin donne un bon matériau au jeu de rôle, quoi. Et là aussi, tous les bouquins ne sont pas égaux à ce niveau-là. Là, avec les lames, visiblement, il y avait déjà ce qu'il fallait. La manière dont on a travaillé rapidement, bon, on s'est réunis très tôt, on a discuté de qu'est-ce que devrait être le jeu, qu'est-ce que, on s'est dit, bon, a priori, les premiers qui achèteront le jeu de rôle seront sans doute des lecteurs, donc qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le bouquin, qu'est-ce qu'ils ont envie de retrouver, comment leur permettre de le faire. En fait, je me suis beaucoup inspiré de la manière dont a travaillé le créateur du jeu de James Bond. Alors là, je vous parle d'un truc, hein, encore, c'est avant les lampes à huile, hein, mais là, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais le créateur avait dit, en fait, moi, j'ai regardé les films de James Bond, j'ai regardé tout ce qu'il faisait, et je me suis dit, comment faire un système de jeu qui permet de faire ça,
pour préférer les règles du jeu à partir des règles du genre.
Voilà. Et donc, il a très très bien réussi, parce que je continue à considérer le système de James Bond comme un des meilleurs systèmes de jeu de rôle qui ait jamais été fait. Précisément pour cette raison. J'en reviens là tout à l'heure à ce que je disais, dans le fait que ce que produit l'auteur de jeu de rôle, c'est un outil. Et le premier des outils, c'est le système de jeu. Si un système de jeu ne permet pas de recréer les scènes d'action telles qu'elles sont vécues, telles qu'elles sont mises en scène par l'univers qui les a inspirées, le système est raté. C'est pour ça que les systèmes universels, souvent, sont parfois très bien dans certains univers, le sont moins dans d'autres. En l'occurrence pour James Bond, et d'une certaine manière pour tous les jeux où une dimension héroïque avec beaucoup de panache est à prendre en compte, le système de James Bond est vraiment réussi. Le système des points de héros, c'est une petite merveille d'invention, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Maintenant, ça va absolument pas. Faites une partie de Cthulhu avec le système de James Bond, à critique, j'ai tué Nyarlathotep, ça va pas, quoi. C'est, je mets 4 points de héros, ça y est, j'ai réussi. Ça va pas du tout. Mais pour faire un James Bond, pour faire un type de Far West à la, ou dans le genre de 7 mercenaires, c'est parfait, quoi. C'est vraiment.
Django.
Voilà, faire ce genre-là, c'est vraiment ça, quoi. J'ai pensé à ça, et c'est là où je vous disais que travailler avec quelqu'un de confiance a été vraiment utile, c'est qu'ensuite j'ai pas eu à m'embêter avec le système. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur les principes, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce que l'on voulait que le système produise, j'ai confiance en Christian Grussier et en son équipe, et j'ai lâché l'affaire. Je leur ai dit, bon ben voilà, on est d'accord, il faut un truc avec pas mal de panache, il faut qu'on soit pas loin du pulp, en fait. Il faut qu'on puisse avoir des héros se battent seuls contre 4 autres escrimeurs. Et il faut non seulement que ce soit possible, mais en plus, il faut que ce soit facile à faire. Et quand je vous dis facile à faire, facile pour le joueur. C'est-à-dire que prenez le système ICE, essayez de faire ça, vous vous retrouvez avec 42 000 GD à faire.
Le système de Rollmaster, pour ceux qui le suivent.
Vous vous retrouvez avec 42 000 GD à faire, et c'est tout sauf intéressant. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille vite, il faut que ce soit fun, il faut que clac, clac, clac.
Oui, bon, mais il y a une table d'éco critique sur les grandes créatures.
Oui, et puis c'est quoi que t'as comme arme, et c'est quoi qu'il a en face comme armure, et... Bon, alors c'est très bien, ça peut être intéressant, enfin peut-être, c'est pas mon système préféré, franchement, Rice. Mais, et puis, moi je pense qu'à partir de 12 tables de critique, on commence à
ça devient du vice.
Ça devient du vice.
C'est pour ça que sur Oshikaze, on a supprimé les tables de localisation.
Donc il faut, donc une fois qu'on s'était mis d'accord là-dessus, mon travail était fini, quoi. J'avais plus grand chose d'autre à faire. On voulait que ce soit rapide, qu'il y ait du fun, et en même temps, on s'est dit, les tarots comptent beaucoup, est-ce qu'on va pas en utiliser ça pour faire un truc à mi-chemin entre l'accessoire, l'outil de jeu, que les cartes servent à la fois à créer les personnages, mais que ce soit également des outils qu'on utilise pendant la partie. Enfin bref, on a trouvé des tas de trucs comme ça. Quand je dis on, c'est surtout eux. Et que j'ai trouvé, mais vraiment, vraiment très très bien, quoi. Ensuite, j'ai eu le plaisir extraordinaire qu'on me fournisse en priorité tous les refs, les illustrations, pour arriver ça sur la boîte mail. Tiens, on a fait ça, c'est un drac, là c'est la fargue, enfin un des personnages, là c'est Agnès. Puis moi, je regardais ça et c'est un travail magnifique. Le travail artistique, au moins celui-là, il est admirablement réussi sur ce jeu. Je suis très, 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 très enthousiaste, quoi. Pour ce qui est d'un autre truc, écueil, alors là aussi, c'était l'expérience du rôliste qui a servi, c'est que un des trucs qui me gêne dans le jeu de rôle, par exemple, des Terres du Milieu, c'est que les héros, on sait qui c'est. Hein. C'est ceux qui sauvent le monde. Et que du coup, c'est très sympa de jouer un ranger, mais sauf qu'on n'est jamais Aragorn. Et c'est très sympa d'être un elfe, sauf qu'on n'est jamais Legolas. Et c'est très sympa de faire un nain qui, oh, se bat non pas à la hache, mais au marteau, mais on ne sera jamais Gimli.
Par contre, un hobbit qui bouffe tout le temps et qui se planque, ça tu peux jouer. Après, tu rates tes jets, mais après, tu ne sers à rien dans le scénario.
Et encore, est-ce qu'il va être aussi agaçant que l'un ou l'autre? Mais bref, ce que je veux dire, c'est là aussi que quand je vous disais qu'il y avait des jeux de rôle, des romans qui inspiraient plus ou moins bien, plus ou moins favorablement, possible ensuite de recréer, mais qui inspiraient plus ou moins favorablement des jeux de rôle, c'est justement les romans où les héros sauvent le monde. Déjà, ça c'est embêtant parce qu'ils ne peuvent pas être 12 à sauver le monde. Donc si ça a déjà été fait, eh ben, les mecs qui passent derrière, ils ne font que passer derrière. Donc ce n'est pas très valorisant. Or, moi, je suis fermement convaincu que le joueur à une table de jeu de rôle, il veut être le héros. Il ne veut pas être un second couteau. Il ne veut pas qu'on lui explique que oui, c'est très bien, mais Aragorn, il l'a déjà fait, et puis mieux en plus. Donc c'est, quand on a des univers qui sont vraiment conçus, et l'univers de Tolkien, hein, je vais encore me faire insulter, mais, l'univers de Tolkien, il paraît très très riche, mais sauf qu'il converge qu'à une seule chose, c'est à produire le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, techniquement, Tolkien a réécrit des trucs pour les adapter à la narration des Seigneurs des Anneaux, donc ça confirme bien ce que je dis et ce que je pense. On se retrouve ensuite, quand on doit jouer dans cet univers, à se dire bah, je le fais après, ouais, bah, c'est un peu con après parce que Sauron il est plus là. Quoi. On joue avant, bah ouais, mais avant ça va être moins fun. Donc il faut trouver d'autres périodes, il faut ruser, et globalement on se retrouve quand même à pas être Aragorn. On en revient toujours à ça. Or, dans le Seigneur des Anneaux, s'il y a un truc qui est bien excitant, et j'utilise un terme pudique, c'est vraiment d'être Aragorn. C'est ça le truc qu'on a envie. Enfin, tant que joueur, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être Legolas ou Gimli, mais j'ai envie d'être les héros. Quoi. Donc, conscient de cet écueil-là, on en a parlé, et on s'est dit, si jamais la plupart, en tout cas les premiers joueurs, sont des lecteurs, il ne faut pas qu'on les mette en situation d'être en dessous de mes héros. Et de se dire, ah ouais, c'est bien, sauf que bon, j'ai un personnage qui s'appelle Marciac, c'est un Gascon, coureur de jupons, escrimeur et tout. Je lui dis, si le mec qui crée un Gascon, il fait un Marciac en moins bien, bah, il ne faut pas ça. C'est même pas que ce n'est pas bien, c'est que moi, en tant qu'auteur et co-créateur du jeu ou inspirateur du jeu, je ne voulais même pas que ce soit possible. Je ne veux pas que le joueur se trouve dans cette situation. Quoi. Donc, pour éviter que l'ombre... des personnages principaux de mes bouquins écrasent les joueurs, on a décidé déjà de se décaler dans le temps. La période de jeu est postérieure à la période du roman. Comme mes héros ne sauvent pas le monde, c'est-à-dire que la France existe avant eux, elle existe toujours après, l'Europe est toujours là, les joueurs n'ont pas... à assumer un héritage qui serait insupportable ou dévalorisant pour eux. Donc ça se passe plus tard, ça se passe pas sous Richelieu, mais ça se passe sous Mazarin. Et on a imaginé des événements, des scénarios que je ne vais pas vous développer ici, mais qui aboutissent à la recréation des fameuses lames du cardinal. Ce sont des nouvelles lames, on repart d'un pied nouveau. Certes, ils se souviennent qu'il y en a eu avant eux et ils auront même l'occasion probablement d'en croiser, d'en rencontrer, etc. Mais c'est en aucun cas l'équipe B, quoi.
C'est la saison 2.
Voilà. C'est saison 2 ou c'est même une nouvelle prod. CBS a lâché l'affaire, HBO le reprend. Donc,
HBO, ce sera bien.
Bah, voilà, c'est mieux. Hein. Donc on reprend tout. Et ça, j'y tenais vraiment. Je voulais pas que les joueurs se disent ouais, mais je suis quand même, on fait des trucs moins bien que ce qui est dans le bouquin. Quoi. Non, ils doivent même faire des trucs mieux, en fait. Il faut qu'ils. Et si, ce que moi, c'est une liberté que je ne m'accordais pas, c'est-à-dire de retourner l'univers, mais si un maître de jeu a envie que sa campagne aboutisse, se finisse par la disparition de la France dans un gouffre sans fin qui mène aux enfers, s'éclate. be my guest, vas-y garçon, le jeu de rôle il est là pour ça justement, tu en fais ce que tu veux. La difficulté donc c'était de faire du roman un matériau de jeu de rôle et de vraiment de le penser que dans cette ligne là et de pas hésiter à trancher, de pas hésiter à se dire ouais mais là moi j'avais imaginé que non, si ça sert pas le jeu de rôle on s'en fout, on enlève quoi. Tout à l'heure tu parlais de savoir qu'est-ce qui était utile à l'histoire. C'est en littérature c'est fondamental. Et finalement en jeu de rôle ça l'est aussi finalement aussi.
Mais c'est pas le
il faut savoir ce qui va être utile. Ce qui va être utile à la réalisation de la partie parce qu'il est utile à l'histoire. Mais c'est d'ailleurs un assez bon. Je vais faire un truc. Je vais être charitable, je ne vais pas vous dire qui c'est. Mais en général le mauvais roman écrit par un auteur de jeu de rôle. Il commence comme celui-là. Alors, je l'ai lu, hein. J'ai tenu un chapitre. Donc ça commence, tu as trois chevaliers qui sont convoqués par le roi. Cool, trois chevaliers sont convoqués par le roi. On ne sait pas pourquoi. Il y a un bon début, honnêtement. Là, je ne suis pas ironique, c'est un bon début de roman. Des mecs sont convoqués, c'est des dieux de la vieille. Pourquoi est-ce qu'on les rappelle, eux? C'est sympa. Sauf que là, boum, ils s'arrivent, ils se retrouvent, et ils rentrent dans la ville. Ils passent une porte. Hop, premier paragraphe qui nous explique la porte. Et le pourquoi de la porte. Car sur la porte, il y a un dieu. Donc on nous explique le dieu. Il passe la porte, il rentre dans le palais, boum, petit passage touristique sur le palais. Donc là, c'était un guide, hein, c'est le guide du routard. Alors vous rentrez par la porte là et vous rencontrez que ça va dire, ok, d'accord. Et là, mais sans exagérer, les mecs, ils traversent trois cours, deux salles, etc. À chaque fois, la narration s'interrompt pour qu'on nous explique le pourquoi du comment. Et alors là, dans cette salle, c'était la salle des dieux, et donc il y a des statues, etc. Et on sent le mec qui s'est éclaté, imaginez ça. Et il a même fait plutôt un bon boulot, enfin en tout cas un gros boulot, il a fait du travail. Il a bossé, il a mouillé la chemise. Sauf qu'on s'en contrefou. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ces trois mecs ont été rappelés de leur retraite et pourquoi le roi les attend.
Ça, tu le sais au chapitre 4.
Voilà, et tu sais qu'il est tout le temps qu'il est tout traversé. Erreur typique d'un auteur de jeu de rôle. Mais typique, quoi. Je connais très bien mon éditeur, Stéphane Marsan, et il me raconte combien de fois il voit arriver des manuscrits qui commencent par « mais... » Parfois, c'est la première partie du bouquin. On parle de centaines de pages qui décrivent l'univers, quoi. Et là, Stéphane, il dit « Ouais, mais tu comprends, il faut que l'histoire elle commence. » Et là, l'auteur dit « Ouais, mais moi, je voulais que ce soit bien placé, qu'on sache où on est, etc. » Sauf que non, 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 un bouquin, ça raconte une histoire. Donc, si tu veux raconter un univers en même temps, trouve l'histoire qui raconte l'univers. Mais commence pas par l'un avant de faire l'autre, quoi. En jeu de rôle, finalement, la problématique, elle pourrait se rejoindre là, quoi. C'est de savoir qu'est-ce qui va être utile, et de le fournir. Et parfois, un excès de littérature dans les règles du jeu nuise à ça. C'est-à-dire que moi, en tout cas en tant que maître de jeu quand je l'étais, moi je veux pouvoir trouver rapidement le truc. Si l'info, elle est distillée dans une nouvelle, certes très bien écrite, mais qui introduit le chapitre sur les personnages ou le chapitre sur l'univers, je m'en fous. Moi, je veux qu'il y ait une table précise, des tabulations, un organigramme précis. Je veux trouver tout de suite mon info. Je veux pas être obligé de me souvenir que, ah oui, c'était dans la nouvelle qui introduit super agréablement le roman, le jeu de rôle, qu'on m'explique qui est le successeur du Roisburg, quoi. Moi, je veux avoir une table généalogie et trouver tout de suite, quoi. C'est l'excès de littérature en jeu de rôle, elle va être nuisible pour ça, parce qu'elle va nuire à l'efficacité. Or, s'il y a bien un truc qui doit rouler, c'est une partie de jeu de rôle, quoi. Tout doit être facile, on doit faciliter le travail. C'est pour ça qu'écrire un scénar, c'est un métier particulier, que c'est même un talent, et que ça peut être plus ou moins bien fait. Un grand auteur de jeu de rôle français, écrivait de très mauvais scénarios, parce qu'il n'avait pas ce talent-là. Il avait le talent de réunir de bonnes équipes, il avait le talent d'imaginer des univers très bien, il écrivait même des bons jeux, mais par contre, dès qu'il s'agissait d'écrire des scénarios, il n'était pas bon, et donc il préférait que quelqu'un d'autre le fasse, et il avait raison. Connaître ses limites. Donc voilà, sur le jeu de rôle aussi, la tendance à la littérature à laquelle s'abandonnent des auteurs de jeux de rôle, c'est une faiblesse que je leur pardonne parce que j'y ai sans doute cédé également, elle peut être nuisible.
Alors Benoît, toi ton approche elle est différente. Là on a parlé de, voilà, j'avais un univers de jeu de rôle, j'avais un univers littéraire qui avait un certain ton, comment je transcris ce ton dans son adaptation en univers. Toi tu fais les deux en parallèle.
En fait,
décris-nous ta démarche et les difficultés.
Et justement, c'est là que c'est intéressant d'écouter Pierre, parce que on voit bien les démarches qu'il fait, je dirais qu'il décrit sur le jeu de rôle et sur le roman, d'un côté de la description, d'un côté les tables, les informations, quelque chose de très pragmatique et de très clair, de très rapide, et de l'autre côté de la littérature, de la narration et une histoire, surtout une histoire. Donc on est vraiment sur deux choses différentes, sur deux techniques différentes, mais qui vont, dans le cas de Hoshikaze, recouvrir le même univers. Et nous, on est parti du jeu de rôle. Donc on avait, je dirais, le côté description, on avait ce côté de savoir ce qui s'était passé, de donner des éléments justement d'univers. Il nous manquait la narration. Et pour l'instant, la narration, on l'a distillée sous forme de nouvelles, de façon à justement introduire certaines parties de l'univers, faire des zooms sur certains événements, sur certains personnages, sur certaines époques, faire des zooms via une narration, via quelque chose qui va justement accrocher un lecteur, qui ne va pas être du jeu de rôle. Et on voit vraiment la différence, on n'est plus du tout dans le jeu de rôle, on est dans une histoire, mais pas une histoire qui se crée, une histoire qui est déjà créée et qui va accrocher le lecteur. Donc, on n'est plus dans la description, donc justement, on essaye d'éviter d'écrire toutes les salles, d'écrire toutes les pièces, d'écrire le fonctionnement de l'État, de la sociologie, et ainsi de suite. On évite de s'apesantir là-dessus. Non. S'il y a des informations à donner, elles vont être données via les personnages, elles vont être données via l'action, elles vont être données via les réflexions des personnages, via l'histoire. On est vraiment dans deux choses différentes. Maintenant, on les articule et on a choisi de justement les articuler tout en les gardant bien séparés. Et la méthode que l'on utilise, c'est de prendre comme moyeu de notre projet, comme centre de notre développement, une encyclopédie qui est sous forme d'un wiki, qui va là recenser toutes les descriptions, donc les personnages, les événements, les états, les factions, et ainsi de suite, les technologies, les vaisseaux. On va recenser tout ça dans une encyclopédie. Et derrière, quand on l'extrait pour le jeu de rôle, ça va être une vision où on va les présenter de manière très carrée, de manière très pragmatique, pour que justement le maître de jeu les trouve et puisse s'en servir pour mener sa partie. Quand on va écrire un scénario, on va écrire quelque chose avec beaucoup de branches possibles, avec des descriptions, des détails bien organisés, de façon à ce que le maître de jeu puisse se dire « je vais aller comme ça si les joueurs vont comme ça », qu'il puisse répondre, improviser, donc une base pour l'improvisation. Et quand on l'écrit pour des lecteurs, là, on va rentrer dans les personnages et on va vraiment ne faire qu'effleurer les descriptions et les donner toujours par les yeux des personnages et par le biais de l'action. Mais on reste, je dirais, la technique qui nous permet de concilier les deux, c'est cette technique du moyeu, du centre, cette technique de l'encyclopédie que l'on dérive après, dont on donne deux vues très différentes mais qui sont cohérentes entre elles parce qu'elles dérivent du même jeu de données, si je peux parler informatique, de la même encyclopédie,
du même référentiel.
Le mot de référentiel est très bon d'ailleurs.
Non, ça c'est vraiment intéressant parce que une des choses qui caractérise les jeux de rôle, pas le jeu de rôle en tant que média, mais les jeux de rôle en tant que produit, et qui est aussi d'ailleurs une des choses qui attire les gens aux médias jeux de rôle, en tout cas au fait de les acheter, sinon de les pratiquer, c'est le caractère encyclopédique. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un jeu de rôle, on aura toujours, quel que soit l'univers, formalisé ou pas, dans lequel il se déroule, notamment des univers contemporains ou des univers médiévaux fantastiques très génériques, qui n'ont pas d'univers au sens géographique, géopolitique, historique, cartographique, ils ont toujours quelque part un catalogue. Et l'intérêt geek du catalogue en jeu de rôle, c'est que comme il décrit avec le même référentiel, avec le même jeu de données, le lion, l'hippopotame, l'éléphant, le dragon, il permet de répondre à la question terrible des nuls, qui est entre l'hippopotame et l'éléphant, qui c'est le plus fort. Parce qu'ils sont décrits avec le même système. On parlait des systèmes génériques tout à l'heure, ils présentent une caractéristique, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais effectivement, aujourd'hui, il existe des versions en D20 système de Star Wars, de Elric, de Cthulhu, et je ne sais pas quoi, et donc, on peut avoir Cthulhu, Dark Vador et Elric avec des caractéristiques qui sont dans le même système, et on peut les comparer, et on peut savoir qui c'est qui gagne. Ce qui est débile, évidemment, parce que ça ne se produira pas, et puis c'est un passe-temps très infantile, mais... Le jeu de rôle aboutit à ça, à cartographier les choses. Et donc, effectivement, l'encyclopédie est un travail qui sert à la fois la narration, notamment dans des univers partagés, quand plusieurs auteurs écrivent sur un même univers fictionnel, notamment en prenant la suite d'un grand cycle tombé dans le domaine public. Et ça sert aussi les jeux de rôle. C'est comme la bible d'une série télé, c'est le truc qui permet de comprendre quels sont le passé, les caractéristiques, le comportement type des personnages, même quand on n'était pas auteur sur la première saison, et pour éviter que ça parte en live. Bon, des exemples comme Heroes prouvent que ça part en live quand même, mais c'est pas très grave. On va dire que c'est parce qu'il y a eu la grève des scénaristes. En tout cas, c'est vrai que l'encyclopédie est peut-être un patrimoine intellectuel commun entre littérature et jeux de rôle, et qu'un certain nombre de gens vont acheter le jeu de rôle dérivé d'une œuvre qu'ils aiment beaucoup, pas pour y jouer, mais pour lire l'encyclopédie, et que les rôlistes vont beaucoup acheter d'encyclopédies des univers fictionnels pour nourrir leur partie, même si c'est des univers qu'ils ont inventés eux, sur la base d'un truc qui ressemble. L'autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est ce que tu disais, l'excès de littérature. Il y a eu une tendance qui s'est imposée au milieu des années 90 et au-delà, essentiellement à mes yeux, pour se donner une caution intellectuelle et artistique, parce que honnêtement, c'était pas génialement écrit et c'était encore pirement traduit, mais il y avait cette tendance de commencer par des nouvelles. Et effectivement, il y avait énormément d'informations qui n'étaient que dans la nouvelle, et si on l'avait pas lue parce qu'elle était gonflante ou qu'on attaquait direct par le jeu de rôle pour la lire après, il y avait des tas de choses qui n'étaient pas compréhensibles sauf à relire la nouvelle, sauf que la nouvelle, elle n'est pas construite comme un catalogue et on n'y trouvait pas l'info. Un peu comme quand on prend une série américaine en cours de route et qu'on a raté le pré-générique et on ne comprend pas pourquoi ils passent leur temps à faire allusion à Jack, qui n'est pas un personnage qu'on rencontre, parce que voilà, c'était pendant le pré-générique. Donc il y a un certain nombre de jeux, notamment anglo-saxons et puis aussi dans la mouvance multisim en France, qui étaient beaucoup structurés comme ça et c'était un peu compliqué.
C'était surtout des jeux qui ne voulaient pas s'assumer comme étant des jeux. C'était des jeux très très prétentieux, qui ne voulaient pas être des outils, qui voulaient être des œuvres.
C'est ça.
L'erreur est fondamentale. La mouvance avait été initiée, encore que le reproche ne soit pas mérité pour eux, avec Malef, qui était le jeu le plus.
Oui.
Avec Maléfice, qui était le jeu le plus littéraire qu'il y avait à l'époque, mais qui restait à.
Mais parce que le style rédactionnel était littéraire.
Voilà, mais le jeu était
la là. La langue était recherchée, mais c'était un jeu.
Et puis de toute façon, il y avait cette idée géniale des cartes de tarot qui était admirable et qui plaçait dans l'ambiance, qui était un outil, ça marchait. Donc c'est. Un jeu doit. Si je ne veux pas utiliser un sens trop restrictif, mais un jeu de rôle doit être que un jeu de rôle. Il doit être pleinement un jeu de rôle, il doit être tout un jeu de rôle, mais il doit être que ça, et un bouquin aussi. Pas essayer de faire tout et n'importe quoi avec l'un ou l'autre. Chacun ont leurs règles, leur utilité, leur intérêt, leur valeur. C'est un bon jeu de rôle vaut un bon bouquin, il n'y a aucun doute là-dessus à mes yeux. Le jeu de rôle, il est assez bien tout seul pour ne pas être obligé de se chercher des cautions littéraires ou artistiques.
Oui, il faut décomplexer le jeu de rôle et arrêter d'essayer d'en faire autre chose, de la bâtardie, pour lui inventer des qualités qu'il n'aurait pas et dont il n'a pas besoin. Trois choses pour conclure. Une remarque, parce qu'il faut que je soutienne la réputation d'ayatollah doctrinaire. Vous avez l'un et l'autre employé l'expression maître de jeu, tout en ayant un discours qui expliquait que un jeu ça n'est jamais qu'un outil et que de toute façon la partie fera autre chose que ce qu'on a prévu. Je considère donc que personne ne maîtrise rien dans une partie de jeu de rôle et que c'est un effort collectif, et donc je préfère qu'on emploie, notamment face à un public, le terme de meneur de jeu. L'autre sujet, c'est que le parcours que vous avez suivi, qui était pour toi de faire du jeu de rôle puis de la littérature qui est adaptée en jeu de rôle, il en existe aussi le symétrique, et notamment, on ne s'en rend pas compte en France, on a beaucoup parlé de Tolkien, parlons un peu de Lovecraft pour se placer sous nos deux parrains usuels. Autant Lovecraft a toujours été, depuis des décennies, assez bien considéré et réédité en France, autant il y a eu un petit passage à vide aux États-Unis dans les années 80, après la mort de Derleth et quand Arkham House a cessé de rééditer ce qu'il faisait, etc. Et dans les années 90 et 2000 sont apparus tout un nouveau vivier d'auteurs qui sont mis à écrire des nouvelles du mythe. Aux États-Unis, c'est différent, il y avait toujours des Anglais qui continuaient, Campbell, Lumley, etc. Mais aux États-Unis, ça s'était un peu étouffé. Et ils ont repris, en ayant découvert Cthulhu et Lovecraft, en jouant à Call of Cthulhu, le fameux jeu de rôle de Chaosium, absolument excellent. Et ces gens, donc, écrivaient des nouvelles un peu nazes, un peu compte-rendu de partie, etc. Et certains, tout en continuant ou pas à œuvrer dans le jeu de rôle, des John Tynes ou des Scott Agnolowski, etc., certains ont eu une carrière purement littéraire, exactement comme toi, en arrêtant le jeu de rôle, ou en arrêtant en tout cas d'être professionnel du jeu de rôle, pour se consacrer à la littérature de genre, à la littérature d'épouvante, au-delà du mythe de Cthulhu, mais en ayant commencé comme ça. Donc il y a une espèce de boucle inverse de la littérature au jeu de rôle et à la littérature, mais la même en l'occurrence. Et il y a une dernière question que j'aurais voulu poser, mais on n'aura pas le temps d'y répondre, qui m'a été inspirée par ce que tu disais, Pierre, quand tu as vu le travail artistique, esthétique fait sur tes personnages. C'est que la littérature, certes, elle est souvent illustrée, il y a au moins une couverture. Pour la littérature jeunesse, il y a souvent des textes entrelardés de beaucoup d'illustrations. Le jeu de rôle, paradoxalement, bien que ce soit un média qui repose sur l'oralité, est un média très visuel. On visualise énormément les scènes pendant les parties. Et donc, il est d'usage que les jeux de rôle soient abondamment illustrés, notamment lorsqu'ils décrivent des univers qui sont éloignés du quotidien, soit parce qu'ils sont des périodes historiques révolues, soit parce qu'ils sont des univers très imaginaires avec des civilisations qu'on ne connaît pas, science-fiction, fantasy, etc. Ou avec des créatures vraiment, vraiment, vraiment étonnantes. Et là, on a décrit le passage littérature-jeu de rôle. Je pense que ce serait intéressant de se poser la question aussi de l'illustration, c'est-à-dire de personnages que tu as conçus littérairement, donc comme des mots, et qui subitement prennent une apparence visuelle, soit sur les couvertures de tes bouquins, soit dans les illustrations des jeux de rôle, qui peuvent aller beaucoup plus loin dans visualiser les lieux, les personnages, les scènes essentielles de l'univers rôliste dérivé de ton univers littéraire. On me fait signe qu'on n'aura pas le temps, mais ça pourra peut-être faire l'objet d'une conférence l'année prochaine. Merci à tous.
Merci.
Ça t'a plu ? Ravi en tout cas d'avoir bossé avec toi. Merci Benoît. Ça va, on a été bon ?
Je repars avec ça ?
Bah voilà, à moins de poser une autre.
Ça te servira si t'as un stand.
Moi je vais repartir avec.
Voilà, comme ça vous aurez votre cartel, vous la communiquez.